Seigneur, nous te demandons encore de nous parler ce matin, comme déjà tu l'as fait, à travers de ces moments de louange, de chant, de prière, de communion les uns avec les autres. Viens nous enseigner, viens nous conduire, nous révéler encore ta pensée, la rendre concrète pour nos vies. Et puis, que tu puisses être aussi au centre de ce moment, comme tu étais au centre de ce moment de louange. Amen. Vous m'avez souvent entendu dire que l'équilibre dans la parole de Dieu est jamais fait par un 50-50. Un peu de ça, un peu de ça pour faire un équilibre. Dieu équilibre toujours les choses avec 100% d'une chose et 100% de l'autre. L'homme est libre à 100% et Dieu est souverain à 100%. Dieu nous aime inconditionnellement à 100%, et puis nous sommes responsables devant lui totalement. Et toutes les vérités de la parole de Dieu sont vraies pleinement, et c'est parce qu'elles se tiennent les unes à côté des autres dans leur plénitude qu'il y a un équilibre qui est celui de la personne de Dieu. Et il faut jamais essayer de faire un petit compromis avec, oui, mais un peu de ça, mais un peu de ça, mais pas jusqu'au bout. Parce que c'est pas comme ça que Dieu pense d'abord. C'est pas comme ça que ça nous est communiqué dans la Bible. Donc, j'ai souvent parlé, c'est dans les mois écoulés, même avant, sur le fait que Dieu voulait que nous soyons unis les uns aux autres, ça c'est clair, que nous fonctionnons comme le corps de Christ. Et puis, c'est une évidence, donc, dépendant les uns des autres, soudés les uns aux autres, avec une vie relationnelle, et ça c'est vrai complètement, à 100%, ça n'a pas besoin d'être tempéré. Les enfants sont contents, c'est bien. Ils ont découvert les marionnettes, c'est pour ça. Et puis, d'un autre côté, le point que je voudrais aborder ce matin parle de notre responsabilité individuelle. Et puis, encore plus, je dirais, encore une fois, peut-être vous avez noté depuis quelque temps, je parle un petit peu plus spécifiquement sur des choses culturelles que je peux observer. J'ai pu m'apercevoir depuis que je suis ici, avec tous les bons côtés que ça a, que j'apprécie, il y a une culture du comité en Suisse. Il n'y a pas un homme qui conduit les choses. Il y a un comité qui réfléchit, il y a un groupe de réflexion, il y a un ensemble de gens qui... Alors, on sait pourquoi c'est comme ça, hein. Parce qu'on connaît les abus qui existent lorsqu'un être humain dirige tout seul et qu'il n'a pas de contrôle. L'histoire est séculière et de l'Église nous a suffisamment montré les choses graves que ça pouvait produire. Maintenant, il existe un aspect dans la parole de Dieu qui est important et que si nous négligeons, il nous manque quelque chose. Je parlais dimanche dernier après le culte avec quelqu'un de l'Église. Et puis on parlait d'un domaine d'activité de l'Église, un service qui se fait ici. Et puis il me disait, ouais, dans ces conditions-là, tu comprends, moi, ça m'embête d'être engagé parce que je ne peux pas faire mes plans et puis je sais pas. Donc j'aimerais pouvoir y participer, mais sans être officiellement inscrit. Quand je suis là, je peux venir et puis, mais pas plus, quoi. Et puis on a commencé de parler de ça. Et il me semble que c'est un point essentiel qui fait que notre Église a du mal à aller plus loin que là où elle en est. On aimerait tous que le jour où j'ai envie, où je me sens bien, où j'arrive ici, il y ait tout qui marche à fond et super bien. Que la louange soit là avec des nouveaux chants, avec des chants préparés, qu'il y ait un programme pour les petits, pour les moyens, pour les grands, qu'il y ait un message qui soit préparé, que la salle soit décorée, qu'elle soit chauffée, qu'elle soit éclairée, que la décoration change, que l'équipe à la sono soit compétente, que l'accueil soit sympathique en bas, que la salle pour les enfants soit bien entretenue, qu'on ait une vie. On voudrait tous trouver ça, mais on aimerait ne pas être coincé. Ne pas être bloqué. Ne pas être, j'aimerais pouvoir y participer. Mais si moi je devais en prendre, Et puis en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit chacun d'entre vous a des dons, a des capacités, aimerait les exprimer, aimerait les mettre au service de Dieu de façon large, pas juste localement ici. Et souvent, on ne sait pas comment. Et puis on se dit, ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un endroit où je peux exprimer ce que je suis, manifester ce que je suis, offrir ce que j'ai à offrir, donner ce que j'ai à donner. Donc, ben, je vais le donner dans le club de sport de la ville, dans l'autre activité, dans ci, dans ça, dans mon travail, dans ma famille. Mais c'est pas, l'église, c'est pas l'endroit où je peux m'impliquer et me développer, et puis développer mes dons. Et je pense qu'il y a, une réalité, comme je l'ai dit, autant Dieu travaille avec son peuple, avec son église, dans l'Ancien Testament, avec Israël, autant dans les Écritures, Dieu a toujours travaillé avec une personne. Pas une personne toute seule, mais au départ, une personne. Vous verrez, j'ai repris cette idée-là dans le petit billet qui est dans le programme. Mais je disais, sur les milliers de personnes qui sont mentionnées dans la Bible, et j'ai pris 8 personnes, pas au hasard, mais on aurait pu en prendre d'autres, mais enlever Abraham, Moïse, Ruth, Esther, Paul, Marie, la mère de Jésus, qui c'est que j'ai mis encore, David, bon, 7 ou 8 comme ça. Enlever ces 7 ou 8 personnages, et il se passe plus rien dans la Bible. Et pourtant, la Bible traite de la vie de milliers et de millions de personnes. Et vous voyez donc cet apparent paradoxe entre Dieu qui veut que nous soyons un corps, que nous soyons unis, il veut pas qu'un soit au-dessus des autres, il veut pas qu'un ait plus de place que les autres, mais en même temps, Dieu dit, Abraham, toi, là, allez, avec toi, on va faire quelque chose. Et puis Moïse, et puis les uns et les autres, et Pierre, et Jacques, et Jean, et Paul, et etc. Et il y a quelque chose, je crois, là, qu'on doit comprendre. J'avais pris comme introduction ce verset d'Ézéchiel, Ézéchiel 22:30. C'est le prophète qui parle et Dieu qui parle par lui. « Je cherche parmi eux un homme, j'ai mis, ou une femme, parce que c'est un être humain, c'est pas une personne de sexe masculin qui est écrit dans le texte. « Je cherche parmi eux un être humain qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais je n'en trouve point. L'appel de Dieu n'a pas changé de cette façon. Dieu cherche un homme, une femme, un être humain, un jeune, un enfant des fois, mais qui veuille répondre à l'appel que Dieu a pour lui. Et puis, la question que je me posais ce matin, c'est qu'est-ce qui fait que je ne réponds pas à l'appel de Dieu ? Alors, on connaît les généralités dans le domaine spirituel. J'ai fait un petit survol des versets du Nouveau Testament. On pourrait l'étudier en détail, mais on ne va pas le faire ce matin, on n'a pas le temps. Dans Romains 1:7, l'apôtre Paul écrit aux gens de Rome et il leur dit « À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » Donc, nous avons appelé à être saints. Ok, super, on le sait. Dans Romains 2:28, nous avons été appelés selon son dessein. Donc Dieu a un dessein, un plan, une intention, quelque chose qu'il veut faire. Dans 1 Corinthiens 1:9, Dieu est fidèle qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Donc nous avons été appelés à être en communion avec son Fils. Galates 5:3, vous avez été appelés à la liberté. C'est un autre appel. Éphésiens 1:18, et je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc on voit qu'avec l'appel que Dieu a formulé, il y a une espérance qui va avec. Colossiens 3:15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. Nous avons été appelés à la paix. 1 Thessaloniciens 4:7 qui dit que nous avons été appelés à la sanctification. Et puis, 1 Thessaloniciens 5:24 nous rappelle que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Puis encore 2-3 versets. 1 Pierre 5:10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 2 Pierre 1:3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors, ça fait beaucoup de passages, je peux vous les donner après si vous voulez les lire, les méditer. Mais je dirais, ce sujet-là, on le connaît relativement bien. parce que c'est dans le domaine, et pas qu'on maîtrise ces choses-là, hein, mais on le connaît, c'est le domaine de notre relation avec Dieu. Et puis on doit toujours le développer. Mais ce que je voudrais aborder ce matin, c'est un côté très pratique, concret. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu une vie d'intimité personnelle qui regarde personne d'autre. Hein. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret sera là avec toi. Cette vie-là, bien sûr qu'on peut et on doit en partager, mais elle a une part d'intimité qui doit rester secrète. C'est ma vie avec Dieu. Hein. Mais Dieu nous a aussi appelés, alors pourquoi, j'en sais rien, mais c'est son plan, à fonctionner en tant que son corps, l'Église, donc rassemblés dans un endroit pour un certain temps. C'est pas un mariage, l'Église, hein, l'Église locale. On peut changer d'Église, on peut déménager, on peut être appelé ailleurs. Mais on doit savoir, à un moment donné dans notre vie, et dans une période de temps, dans quel endroit je suis engagé, hein, où est-ce que je vis ma vie. Parce que notre appel concret au niveau de l'expression de nos dons, de notre engagement, est lié à cet endroit-là. Si j'ai une vie de, je dis ça c'est pas péjoratif, hein, mais de touriste chrétien, donc je vais un peu là, je vais un peu là, je vais là, quand il fait beau je vais pas là, quand il pleut je vais ailleurs. Et encore une fois, il faut comprendre ça intelligemment, hein. On doit visiter d'autres églises, on doit être ouvert, on doit aller à droite à gauche pour pas rester enfermé. Mais de la même façon que je pars en vacances, je vais dîner chez des amis, je visite ma famille, mais j'ai quand même ma maison, c'est là où je vis la plupart du temps, où j'ai mes habitudes, où je reviens, où j'élève mes enfants, où je travaille, où je dors, etc. Au niveau de la vie de l'église locale, l'église fonctionne sur ce principe-là. Hein. Pour chaque chose, Dieu dit, je cherche une personne. Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Et on s'aperçoit que lorsque on trouve cette personne, le reste se fait. Si cette personne est là, alors il y a une équipe qui va se constituer. Et puis cette équipe va se développer et faire son travail. Et puis, en fait, c'est dans ce cadre-là que la vie de l'Église va se vivre. Parce que, lorsque je suis engagé dans un ministère, quel qu'il soit, et que je fais partie d'une équipe, forcément, s'il y a une équipe, il n'y a pas que des gens que j'aime dedans, en général. Enfin, il y en a que j'aime plus que d'autres. Hein. Il n'y a pas que les gens que moi, j'aurais forcément choisi. Et puis, parce que justement, je suis engagé, j'y vais pas que quand j'ai envie. Ces choses-là m'obligent à trouver Dieu. Hein. Vous savez, la pesanteur dans le domaine physique, hein, qui fait que nous sommes fatigués, mine de rien, à la fin de la journée, parce que elle pèse sur nous tout le temps, et puis, ben, il faut porter son poids, on pourrait dire. Si on vivait sur la Lune, ça serait moins fatigant. En même temps, on sait que si on vivait sur la Lune, on pourrait pas marcher, parce qu'il n'y a pas la pesanteur, et on serait obligé de rajouter artificiellement du poids sous nos pieds, pour que nos pieds restent par terre. Les réalités de la vie les uns avec les autres, c'est une forme d'apesanteur, parce que, ah ben zut, samedi matin, il y a ça, et moi j'avais prévu deux, ah mais dimanche, il y a ça, mais moi c'est le jour où j'aimerais, ah mais, alors bien sûr, l'engagement doit être libre, choisi, et toujours reste mon choix, hein. Je peux toujours dire non, je peux toujours partir, je peux toujours arrêter, personne n'a le droit de décider pour moi, c'est là où souvent il y a un mauvais fonctionnement, hein. Mais en même temps, cet engagement que j'ai choisi de faire, et qui me pèse d'un certain côté, c'est lui qui me permet de marcher dans la vie spirituelle. C'est ce qui fait que ma vie spirituelle n'est pas artificielle. Parce que à partir du moment où j'ai pas répondu à l'appel de Dieu, je sais pas ce qu'il est, mais pour chacun d'entre nous, et donc que j'ai pas cet engagement, et que j'ai plus d'obligations, donc je peux faire que ce que je veux, ce qui paraît super. Mais quand je vis de cette façon-là, je suis plus confronté à la réalité. Et donc ma vie artificielle, ma vie spirituelle devient artificielle. Parce que je suis pas motivé par la réalité de mon engagement, donc il faut trouver une motivation, mais elle n'est pas là. Alors il faut que quelque chose me stimule, mais je sais pas comment. Et puis, prier, bah, pourquoi Alors que quand j'ai une responsabilité, encore une fois, dans mes dons, que j'ai choisi, qu'on m'a pas imposé, hein, c'est moi qui ai fait ce choix, ça me pousse à Dieu. Je vis avec Dieu toute la semaine, personnellement, j'essaye. Hein. Mais le dimanche matin, c'est particulier pour moi. Mais c'est mon matin préféré. Parce que quand je me lève le dimanche matin tôt, je n'ai pas le choix. Il faut que je rencontre Dieu. Pourquoi ? Ben parce que je vais être là devant vous et que vous attendez quelque chose et que j'ai la responsabilité de vous la donner et que si Dieu ne me la donne pas, je n'aurai rien à vous donner. Donc j'aime ces dimanches matins, mais le samedi soir, je n'aime pas. Hein. Quand je vais me coucher tard comme tout le monde et que je me dis il faudrait que je me lève à 5h30. Mais quand je me lève le dimanche matin, c'est mon meilleur matin de la semaine. Et puis quand je suis en vacances, je ne me lève pas tôt le dimanche matin pour rencontrer Dieu. Ben, je vais dans une autre église, je m'assois, j'écoute, j'apprécie. Hein. Mais il y a plus ce côté-là. Alors c'est vrai que régulièrement, ça arrive si je me couche très tard le samedi matin, de me dire, zut, dimanche matin, j'aimerais pouvoir dormir comme tout le monde. Mais en réalité, c'est une des raisons pour lesquelles je suis pasteur, c'est que j'ai besoin de ça. Sinon, ça y est pas dans ma vie. Hein. Alors, chacun dans son appel, dans ses dons, dans ce qu'il veut, puis il y a des périodes de nos vies, on est dans un domaine, dans un autre. Mais on a besoin de comprendre que nous avons tous été appelés par Dieu à le suivre, à le servir, à nous engager d'une façon concrète. Et lorsqu'on vit ces choses-là, je dirais beaucoup de choses que nous essayons de fabriquer se font toutes seules. On parle beaucoup de, à juste titre, puisque c'est le commandement que Jésus nous a laissé, hein, faire des disciples. Donc pour faire des disciples, ça suppose qu'on rencontre des gens qui ne sont pas déjà des disciples, donc des non-croyants. Et puis on réfléchit comment on pourrait évangéliser, faire ci, faire ça. Et on fait des choses qui sont super. Mais le premier outil d'évangélisation que Dieu a voulu, c'est l'Église. L'Église, elle est l'outil et le but en même temps. C'est-à-dire la façon dont on va vivre, quand je dis l'Église, je parle ni du bâtiment, bien sûr, ni spécifiquement du rassemblement qu'il y a entre 10h et 11h30 le dimanche matin, hein. Ce que l'Église vit dans toute sa vie, relationnelle, activité, etc. C'est cette vie-là qui est le premier, le meilleur, le plus efficace, le plus biblique des outils pour toucher les gens. Les premiers chrétiens avaient pas des plans d'organisation, d'évangélisation sur les 5 ans à venir. Ils vivaient leur foi de telle façon que c'était choquant dans la culture où ils étaient. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est ces gens? Comment ils vivent? On aimerait en savoir plus. C'est pas normal de vivre comme ça. Hein. Ça se passe pas si chacun d'entre nous répond pas à l'appel de Dieu. Alors, le problème qu'il y a, c'est que parce que, je pense, tous les dirigeants de toutes les églises savent cette chose-là, le piège, c'est de dire, bon, ben, puisque les gens veulent pas s'engager, on va les aider à s'engager. Hein? Et là, on amène un bon message bien légaliste, si vous vous engagez pas, Dieu est fâché avec vous, si vous vous engagez pas, Dieu va vous envoyer en enfer, si vous vous engagez pas, vous perdrez vos récompenses au ciel, si vous vous engagez pas, etc., etc. Et puis si on le dit pas comme ça, on peut aussi le faire par la manipulation. On dit rien, mais ceux qui s'engagent sont bien honorés, on en parle, on les montre. Ceux qui s'engagent pas, on leur dit bonjour, mais pas pareil. Il y a plein de façons de faire. Et ces choses-là sont interdites. On n'en a pas le droit. C'est la chose la plus grave contre Dieu. Hein. Jésus s'est mis en colère que contre les gens qui pratiquaient ces choses-là. Donc on n'en veut pas. Et c'est pour ça que peut-être vous avez trouvé que c'était long, mais je crois que pendant 3 ans, j'ai prêché le même message tous les dimanches. À peu près, 3 ans et demi. Dieu vous aime quoi que vous fassiez. Je continue de le faire et je continuerai de le faire parce que c'est l'essentiel, c'est vrai. Si on fait quoi que ce soit pour une autre raison, de toute façon, ça n'a aucune valeur. Donc effectivement, il vaut mieux rien faire que de faire pour pas que Dieu soit fâché. Parce que ça lui fait honte, ça le glorifie pas, ça atteint pas le but, c'est juste un système politique de plus. Mais lorsque j'ai compris que Dieu m'aime quoi que je fasse, lorsque j'ai compris qu'il n'attend rien de moi pour m'aimer, je dois aussi comprendre que j'ai besoin de donner ma vie. Mais rien à voir avec pour qu'il m'aime, ou pour qu'il soit content, ou pour que je sois béni, ou pour qu'il me récompense, ou pour que j'ai une position dans l'église, ou pour que je sais pas quoi. Non. C'est deux domaines qui sont pas liés. D'un côté, Dieu nous aime. puis il nous aime, et il nous aimera toujours. Et comme je dis souvent, si vous restiez tous assis sur vos chaises sans bouger jusqu'à son retour, il vous aimerait de la même façon que si vous partiez mourir pour lui à l'autre bout du monde. Sinon, ça serait contraire à ce qu'il est. Mais lorsque j'ai compris ça, alors je dois dire à Dieu, maintenant, je suis à ta disposition. Pas pour que tu m'aimes plus, mais puisque tu m'as libéré, tu m'as donné toutes ces choses-là, on a notre relation, tu m'aimes, et puis je veux te connaître. Mais j'ai aussi besoin de vivre sur terre, et puis j'ai aussi des responsabilités, et je veux les découvrir avec toi. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, lorsqu'on rentre dans ces choses-là, encore une fois, avec les bonnes motivations, librement, de plein choix, sans contrainte, sans culpabilité, c'est là qu'on va découvrir l'épanouissement. C'est là qu'on va découvrir ce qu'on cherche partout ailleurs et qu'on ne trouve pas. Parce que, enfin, je ne sais pas pour vous si vous êtes déjà arrivé à cette conclusion, pour moi ça fait longtemps, plus je suis égoïste, plus je suis misérable. Je suis toujours égoïste, hein. Mais je sais où m'amène mon égoïsme. Ouais, il y a 10 minutes de « ouais, c'est super », mais je suis toujours, je suis pas bien. Alors que chaque fois que je choisis, encore une fois, librement, d'offrir ma vie dans un domaine ou dans un autre, à la fin, mais qu'est-ce que je me sens bien ? Alors, le but, c'est pas de se sentir bien, mais ça fait partie des conséquences. « Oh, mais tu n'as pas eu une heure de libre là depuis 3 week-ends. Des heures de libre, pourquoi faire ? Pour lutter contre mes mauvaises pensées, pour m'ennuyer, pour essayer de m'occuper, alors que non, mais j'ai pas besoin d'heures de libre si les heures que je vis remplissent ma vie. C'est ça ma liberté. La liberté, c'est pas, on a une définition en tant qu'être humain, être libre, c'est pouvoir faire ce que je veux sans avoir à en payer les conséquences. La liberté que l'être humain aimerait, c'est pouvoir vivre dans le péché du matin au soir, mais qui a aucune conséquence. Je ne sais pas si ça serait bien ou non, mais elle n'existe pas, cette liberté-là. C'est tout, elle n'existe pas. Je peux faire ce que je veux, mais je vis toujours avec les conséquences de mes choix. C'est comme ça. Hein. Mais par contre, lorsque je vis avec Dieu, il y a une plénitude. Ce n'est pas forcément la facilité, ce n'est pas le bonheur, cet état-là, tout va bien sur le dos, les doigts, les orteils en éventail, avec le verre, la paille dans la piscine. Mais c'est... je suis rempli. Hein. Ces soirs où vous allez vous coucher en vous disant « Tiens, pour une fois, ma journée avait du sens. J'ai pas une seconde pour moi, peut-être. Hein. J'ai pas pu faire plein de choses que j'avais envie de faire, mais si je meurs ce soir, je meurs satisfait. Pas de moi, hein, mais de ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'espère que vous connaissez ces moments-là. Moi, c'est les meilleurs moments de ma vie. J'en veux pas d'autres. Et c'était rarement en vacances que j'ai vécu ça. J'ai rien contre les vacances, j'aime en prendre, j'espère en prendre. Mais c'est beaucoup plus difficile de vivre ça en vacances que dans les moments où je donne ma vie. Mais encore une fois, donner sa vie et se faire prendre sa vie, c'est pas pareil. Hein. Attention. Hein. Ce qui est insupportable, c'est quand on veut me prendre ma vie et j'ai pas décidé de la donner. Mais ça vient pas de Dieu. Hein. Vous vous rappelez ce passage que je vous rappelle souvent, lorsque tous les disciples ont abandonné Jésus, et puis qu'ils se retrouvent seuls avec les 12, qu'est-ce qu'il leur dit ? Et vous voulez pas aussi partir ? Et Pierre dit non, où on irait ? La vie se trouve avec toi. Ok, alors viens. Mais ça doit être un choix, et c'est pour ça que je reviens à ce verset d'Ésaïe 6-9, J'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» C'est la même question que j'avais posée dans le verset d'Ézéchiel. Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi. » Pourquoi nous répondons pas à l'appel de Dieu ? C'est la question que j'ai posée au début. J'ai listé vite fait quelques idées. Premièrement, je ne sais pas qu'il m'appelle personnellement. Comme je l'ai dit, oui, dans le domaine spirituel, on sait, on est appelé à la communion, appelé à la paix, appelé... Mais est-ce que je sais... réellement, concrètement, que Dieu m'appelle, moi, qui que je sois, pas, ouais, lui, il est responsable de ça, lui, il a été à l'école biblique, lui, là, non. Si je suis un enfant de Dieu, Dieu m'appelle. Chaque croyant. Est-ce que je le sais déjà ? Parce que c'est vrai que je peux avoir entendu dire, ben, il y a des spécialistes qui ont étudié, puis moi, je viens, j'écoute, et j'obéis. Non, la vie chrétienne, c'est pas écouter un spécialiste et obéir, c'est répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu a un appel particulier pour chacun d'entre nous. Donc d'abord, il faut le savoir. Deuxièmement, en général, on ne pense pas être qualifié pour la chose que Dieu nous demande. Je me méfie toujours quand les gens viennent me voir en pensant être super qualifiés, que Dieu les a appelés pour quelque chose. Ça peut que ce soit le cas, mais souvent c'est pas vrai. Hein. Lorsque Dieu a appelé Moïse, non, jamais, je sais pas parler, je peux pas, je veux pas. Lorsque Dieu a appelé Pierre, non, je peux pas, je veux pas. Pour appeler Paul, ça a été compliqué, il a fallu le mettre à terre, le rendre aveugle et handicapé. La plupart du temps, quand Dieu nous appelle, on est persuadé qu'on n'est pas à la hauteur. Mais ça veut pas dire que c'est pas vous qui l'a pas appelé pour ça. Donc ça, c'est un gros handicap. Et chacun de ces points serait vraiment à réfléchir et à méditer. Troisièmement, nous pensons toujours que quelqu'un d'autre est plus qualifié que nous. Puis ça c'est encore plus fort ici. Je disais, dans la culture nord-américaine, on est élevé depuis l'âge de 2 ans avec « je vais sûrement être le président de ce pays ». Non, mais c'est, dans les écoles, on vous apprend tout, la culture est basée là-dessus. Donc, être chef dans cette culture-là, c'est quelque chose de convoité. Hein, ce qui pose d'autres problèmes, d'ailleurs. Mais dans une culture comme la Suisse, au contraire, c'est vu comme de l'orgueil de penser comme ça. Et on pense tous que l'autre est meilleur que moi. Même si quelque part, au fond, je pense que je suis meilleur. Enfin, bon. Hein, mais en tout cas, on n'oserait pas se mettre en avant. Il faut vraiment qu'on nous demande, qu'on insiste et qu'on ait l'impression qu'on est coincé. Alors quand vous mettez tout ça ensemble, je ne sais pas que je suis appelé peut-être, je ne pense pas être qualifié, et puis je vois plein de gens qui ont l'air bien mieux qualifiés que moi. Hein? Alors, parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils ont plus d'expérience, parce qu'ils n'ont pas l'air, parce qu'ils ont... Il y a des tas de raisons. Ensuite, il y a ce que j'ai développé au début, on a peur de l'engagement, ça fait peur, hein. Oui, mais alors ça veut dire, je réfléchis rapidement, mais c'est sur une année ou c'est sur 2 ans, ça veut dire que peut-être, et si ça tombe un vendredi soir hein? Non, alors je préfère dire que je serai consultant, quand vous pouvez me demander, je serai à disposition des fois, mais sans m'engager. Donc cette peur de l'engagement, je redéveloppe. Hein. Une autre chose, c'est que, et là encore c'est culturel, nous n'avons pas eu de modèle de ce genre. On a connu soit des dirigeants qui étaient des dictateurs, je pense pour toi, tu n'as pas besoin de penser, tu dois juste savoir obéir et surtout pas réfléchir. Ça on connaît, hein. C'est pas du tout le modèle de Dieu. Jésus a dit, je suis le Seigneur et le Maître, vous avez raison de le dire, et voilà, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et je vais vous laver les pieds. Donc le dirigeant, selon le cœur de Dieu, c'est celui qui est au service des autres. Donc on a soit ce modèle de dictateur, soit on n'a pas autre chose. On n'a pas vécu d'être avec quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu, qui va de l'avant, qui prend ses responsabilités, qui vit chaque jour que Dieu fait en se levant, en disant « Seigneur, dans ce que tu m'as confié, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ça? Comment on avance? Où on va? Comment on le développe? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qui serait bien dans cette équipe-là? Qui je peux encourager pour ça? » Qui, hein? Bah, on en a quand même des modèles, mais je veux dire, pas assez clair, pas assez bien vu. Et puis, ici, il y a une part de responsabilité de la part des responsables des églises, donc ici, nous, les anciens. Normalement, qui devrait amorcer ce processus? Ben, les anciens. Le pasteur, hein, dans les anciens, qui fait partie des anciens. C'est-à-dire que les responsables d'une église devraient être à l'affût, ça devrait être notre première responsabilité, essayer d'aider les gens à discerner leurs dons, l'appel de Dieu pour leur vie, et les encourager dedans. Parce que, en général, l'appel de Dieu, même s'il vient directement de lui, Dieu se sert des hommes, et c'est des gens qui ont un peu plus d'expérience dans la foi qui vont nous aider à y rentrer. Moi, j'ai eu le privilège de naître, de vivre dans des églises qui, sans y avoir réfléchi, parce que je crois pas qu'il avait réfléchi, vivaient ces choses-là instinctivement. Quand j'avais 15 ou 16 ans, et j'aimais les spectacles, et j'aimais tout ce qui était l'animation, toutes ces choses-là, et j'avais à cœur l'évangélisation, les responsables m'ont dit, mais tu voudrais pas t'occuper d'avoir une équipe qui fait de l'évangélisation dans la rue? Moi, j'ai jamais été un leader naturel. En tant que gamin, j'ai toujours cherché dans un groupe la place de celui qui est derrière le chef. Moi, je suis, c'est facile, ça me convient dans mon caractère. Donc, c'était pas mon tempérament du tout. Et puis, je me voyais pas qualifié. Mais ces gens m'ont confié ça. Et je sais pas, au bout d'un moment, j'ai accepté. Puis, j'ai découvert au fil des années que j'aimais ça, j'étais à ma place. Puis, un jour, on m'a demandé aux autres, tu voudrais pas conduire les chants à la louange, tu joues un peu de la guitare? Moi, conduire. Il y avait personne, j'ai accepté, j'ai essayé, puis j'ai dit, ah, mais j'aime ça. Mais chaque fois que j'acceptais ces défis, ça m'amenait à Dieu. Parce que du coup, oui, j'ai accepté, mais maintenant, comment je vais faire? Seigneur, au secours! Et là, Dieu vient me remplir. Ah, mais ça marche, je vois des miracles. Alors, j'y vais encore. Et ça construit en nous une capacité. Donc, il y a quelque chose qui doit se faire là, mais si ça se fait pas, et si je viens, entre guillemets, à l'église le dimanche matin, et puis bon, ben, dans le meilleur des cas, je reviendrai dimanche prochain, mais bon, voilà, il y a déjà 5 musiciens, il y a déjà 2 personnes qui prêchent, ou une, ou 3, il y a déjà 2 personnes là, donc, quel... Ben, ouais, voilà, je suis un membre d'église, on apprécie peut-être que je mette de l'argent dans l'offrande, mais je fais quoi d'autre? Non, hein. Une église devrait être toujours en mouvement, parce qu'une fois que les gens sont formés, ben, ils devraient pouvoir continuer ailleurs, et puis d'autres prennent la place, et ça se renouvelle. Comme dans les générations dans une famille. Les parents travaillent, paient l'éducation à leurs enfants grandissent, et puis les parents partent à la retraite, et les enfants ont des enfants, et ils prennent des responsabilités. Ça doit être comme ça dans le corps de Christ, aussi. Donc il faut qu'il y ait ce mouvement-là. Et puis, dernier point que j'avais listé, nous sommes hyper spirituels, donc dans le sens, nous appliquons tous ces versets de la Bible à notre relation avec Dieu, mais nous refusons de les voir appliqués dans le domaine concret. Oui, Dieu nous a appelés à être en communion avec lui, ce qui est vrai, ce qui est la base, ce qui est essentiel. Mais ma communion avec lui, ma vie intérieure, intime, spirituelle, parce que nous sommes des êtres humains et que nous sommes sur terre, si elle n'est pas nourrie par mon engagement, si elle n'est pas nourrie par des défis, si elle n'est pas nourrie par des choses que je dois affronter, elle s'assèche. Elle est vide. Et alors là, d'un coup, j'ai besoin d'encore un livre de psychologie qui me dise comment je pourrais, tu sais, et puis je tourne en rond sur moi-même, et puis je m'en sors plus. Hier après-midi, on a répété pour les mimes, parce que on va les faire à Interlaken pendant qu'on sera Eisenflou. On a eu une discussion après les mimes. Et puis, je dis ton nom, hein, parce que Kathleen me disait, mais, j'ai pas envie d'être là cet après-midi. Pas parce que j'ai pas envie d'être là, on connaît tous Kathleen, plus sérieux il n'y a pas, des fois on trouve trop sérieuse. Mais c'est difficile, on connaît Mathieu il n'est pas timide, il aime faire le clown, là, mais à l'idée d'aller évangéliser dans la rue, j'ai mal au ventre, c'est difficile. Hein. C'est facile pour personne. Maintenant, lorsque je dis, et librement, j'ai choisi, ok, je veux le faire, parce que je pense que c'est ce que Dieu veut, hein. Dieu m'a appelé à ça. On n'entend pas une voix avec un ange qui parle, il n'y a pas un ange qui vient avec un marqueur noir écrire sur le mur, je t'ai appelé, hein. Mais, on a la conviction que c'est ce qu'on devrait faire. Alors, je m'engage à le faire, puis une fois que j'ai dit que j'allais y aller, hein, mais quel idiot, pourquoi j'ai dit que j'y allais? J'aurais dû voir, si je le sens au dernier moment, je les rejoindrais. Ben, si je fais ça, d'abord je sais que je ne les rejoindrai pas, mais on sait tous que cet engagement-là qui va amener du stress dans ma vie, c'est vrai, de la crainte, etc., il va me faire grandir d'une façon incroyable avec Dieu. Ça va être difficile, mais quand on va l'avoir fait, on va être encouragé. Ça ne sera pas plus facile la fois d'après, malheureusement. C'est toujours pareil, c'est toujours à recommencer. Je disais, j'ai dû aller dans la rue évangéliser des milliers et des millions de fois dans ma vie. J'aime ça. Ça n'a jamais été facile. Jamais, jamais. À chaque fois, je me dis, bon, je l'ai fait, c'était super, je suis encouragé. Demain, je vais avoir du plaisir. Je me couche, je me lève, et le lendemain, c'est, oh, j'espère qu'il pleuve, j'espère qu'un téléphone sonne, que je trouve une façon honorable de ne pas y aller. J'y vais quand même, parce que je sais que c'est ce que Dieu veut. Je reviens, je marche à 1 mètre du sol, c'est super. Je vais me coucher, je me lève le lendemain matin. Je n'ai toujours pas envie d'y aller. On est sur terre. C'est comme ça. Comme la plupart des bonnes choses dans nos vies. Hein. À quelques rares exceptions près, j'en connais, mais qui se lève le matin et dit « J'ai envie d'aller courir 1 heure ». Mais si on le fait quand on revient, ah, on est bien. qui se lève et dit « Ah, j'ai envie de prier une heure !» Pas grand monde. Mais si on prie un moment, après, on se sent bien. Alors ça, c'est des choses personnelles. Mais on a besoin de ça. Et puis, ça va avec... Dieu nous a dit « Allez hein, !» Une idée de conquérir. Hein. On parlait de la situation avec les préados dans notre église. Il n'y en a pas assez, donc on ferme le groupe et puis on attend que les enfants grandissent pour en avoir. On peut penser comme ça. Si les apôtres avaient pensé comme ça, l'évangile ne serait pas ici aujourd'hui. Il n'y a pas de préado dans notre église, ça doit être une cible. Qui va se lever? Dieu dit, je cherche un être humain, je ne dis pas un homme, un être humain, qui se lève et qui dit, Seigneur, moi j'aurais à cœur, j'aimerais voir dans cette église locale de nouveau un groupe de 15 préados. Pourquoi? Pas pour que notre église grandisse, qu'on change les murs, on n'est pas dans cette idée-là, mais c'est des gens qui vont vivre avec Dieu. Puis on sait que cet stage-là, c'est essentiel. Il y a plein de gens ici qui pourraient faire une super équipe. Tant qu'on n'aura pas trouvé une personne qui se lève et qui dise « Dieu m'a mis ça à cœur, je vais le faire ». Et cette personne-là, tous les matins, elle va se lever et dire à Dieu, « Seigneur, comment on va le faire? Comment on va y arriver ?» Elle va y penser, et la nuit, et le jour, et dans le train, et dans le bus, et au travail, et après le travail, elle va créer une dynamique, former une équipe avec elle, et puis dans 6 mois, 1 an, on va avoir une équipe avec 15 jeunes. « Ah, oh, c'est génial, c'est super !» Ouais, c'est super, ça amène la vie, on est tous contents. Et il y a plein de gens qui aimeraient y participer, mais en consultant. Et puis oui, mais si moi je fais ça et les autres pendant ce temps, et lui, qu'est-ce qu'il va? On est tous pareils. Quand Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu veux être pasteur dans mon église? Ben, tu sais, Seigneur, ouais, mais je... Et les autres? T'occupes pas. Toi, suis-moi. On est tous pareils. Chaque fois que Dieu nous pose une question, c'est, ouais, mais franchement, Seigneur, tu me demandes à moi. Ben, honnêtement, Philippe, il serait quand même vachement mieux. Il est plus sérieux, il est précis, il sait faire. Ah ben Virginia, c'est évident qu'elle serait mieux que moi. Ah ben oui, Daniel, il serait mieux. Ah ben oui, Carole, c'est sûr, elle serait mieux. Et puis, non, toi, suis-moi. Alors moi, je peux pas vous dire ce que Dieu vous demande. Je peux essayer de vous encourager, de vous aider, de vous stimuler, de vous défier ce matin, de vous provoquer un peu. Mais je vous dis ça parce que Dieu fait la même chose avec moi. Dieu me dit, oh, réveille-toi. Voilà. C'est gentil d'être pasteur, mais de se réveiller, hein? D'accord. Donc c'est pas, je vous parle pas de très haut, non, je suis comme vous. Mais en même temps, honnêtement, hein, si on passe pas par là, je vois pas d'avenir, je vois pas d'autre solution. Ouais, bon, on peut rester ensemble gentiment jusqu'à ce que les plus âgés soient plus là et que les plus jeunes soient plus vieux. Et puis doucement, espérer qu'il arrive 2-3 personnes parce qu'une église ailleurs a fermé ses portes et que 2-3 vont nous rejoindre. C'est un avenir glorieux à envisager. Non, non, je serai peut-être plus là pour le partager avec vous. Mais si on veut autre chose que ça, et je pense que c'est ce qu'on veut, on l'a démontré, on le voit, on le vit, etc. Alors, il faut autre chose. Et puis... regardons aux exemples qui marchent. Hein. Il y a Quartier Libre qui a commencé il n'y a pas longtemps, et ça, c'est pas dans notre église, mais le principe est là. Il y a une équipe, il y a des gens qui ont une vision, ça se développe. S'il y a aussi longtemps qu'il y a un groupe de jeunes le mardi soir chez Eric et Catherine, pourquoi? Ben parce qu'ils ont ce rôle-là, on a un groupe de louanges qui fonctionne, parce qu'il y a des gens qui font ça. Il y a, les choses se font, elles existent, c'est pas un constat pessimiste et négatif ce matin. Hein. Mais si on veut aller plus loin, si on veut juste passer de l'état de chrétien concombre, hein, vous savez, les légumes qui sont là, à quelque chose d'actif, il faut qu'on envisage cette chose-là, et que je l'envisage pour moi, bien sûr, d'abord. Alors, je vous laisse avec ce défi, et rappelez-vous, ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu vous aime ou vous aime pas. Seigneur, merci parce que tu nous as tous appelés. Tu veux... que nous t'offrions nos vies librement, sans contrainte, parce que c'est là qu'est la chose la plus proche du bonheur sur terre. C'est là que nous pouvons trouver la satisfaction, Seigneur, que nous pouvons être remplis. Merci parce que un jour tu nous as appelés, tu nous as trouvés, et nous t'avons reçu et tu as rempli nos cœurs. Et nous te demandons que nous puissions continuer de vivre comme ça avec toi jour après jour, Seigneur. Conduis-nous, aide-nous à aller de l'avant et à relever tous les défis que tu mets devant nous, Seigneur Dieu. Amen.